Vincent Dublonge, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 6h43 à Niamey, prochain journal dans 20 minutes. La Syrie à la une, reportage à Qamishli, l'une des principales villes du Kurdistan syrien. Et justement, la Syrie, après la chute de Bachar al-Assad, quel avenir pour les bases militaires russes dans le pays? Et derrière ça, quelles conséquences pour les alliés de Moscou en Afrique? Le général Jérôme Pellistrandi est notre invité Afrique ce matin. Il nous livre son analyse dans 3 minutes. D'abord, on fait le point sur l'actualité sportive de ce jeudi. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Le football, évidemment, et la Ligue des Champions, décidément compliqué pour Manchester City.
Les Citizens battus 2-0 par la Juventus de Turin. Troisième match sans victoire de suite pour Pep Guardiola et ses hommes. Seulement 22e du classement après 6 journées de phase de Ligue. City bien loin d'Arsenal qui a surclassé le Monaco de Lamine Camara 3-0 et pointe désormais à la 3e marche du podium, juste derrière Barcelone, qui de son côté a dominé Dortmund 3-2 malgré un doublé du Guinéen Serhou Guirassy.
Et après la Ligue des Champions, soirée de Ligue Europa ce jeudi.
Après, avec Manchester United qui veut enchaîner, après 2 victoires, les joueurs de Ruben Amorim sont 12e et ils jouent sur le terrain du 13e, le Viktoria Pilsen en République Tchèque. Le nouvel entraîneur portugais des Red Devils a fait du jeune Amad Diallo l'un de ses hommes de base, l'international ivoirien de Manchester United pour qui l'Europa League aura servi de déclic le 7 novembre dernier, Victor Misistrano.
Tout a vraiment commencé lors de cette victoire 2-0 contre le Panathinaikos. Sensationnel but d'Amad Diallo, son second de la soirée pour lancer la saison de United en Ligue Europa et la sienne. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives sur les 7 derniers matchs, l'Ivoirien, désormais meilleur passeur de l'équipe, est en train de prendre son envol sous les ordres de Ruben Amorim.
Il traverse une belle période. Ça a commencé avec Ruud van Nistelrooy. Je profite donc du travail de Ruud avec Amad. Il faut qu'il continue à jouer comme ça et qu'il augmente ses capacités physiques.
Le technicien portugais utilise l'ailier de 22 ans dans un rôle exigeant physiquement, un poste de piston, hybride et plus défensif avec lequel Diallo se familiarise. Mes efforts sont en train de payer, se réjouit le joueur formé en Italie. Lui qui est passé par des moments difficiles dans son début de carrière, peu de temps de jeu et des prêts peu concluants chez les Glasgow Rangers puis à Sunderland. Amad Diallo sera en fin de contrat l'été prochain, 4 ans après son arrivée à Manchester avec l'étiquette de grand espoir. La question d'une prolongation se pose déjà.
Pilsen, Manchester United, coup d'envoi 17h45 temps universel. Parmi les affiches du jour, Ajax Amsterdam, Lazio, Lyon, Eintracht Francfort et Union Saint-Gilloise face à l'OGC Nice.
Direction Dakar qui accueille en ce moment la Ligue africaine de basket féminin.
Les derniers matchs de la phase de groupe se sont joués hier. La Jeanne d'Arc de Dakar, invitée de dernière minute du tournoi, s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle affrontera le Ferroviario Maputo, les Dakaroises battues par les Rwandaises de Reg, certes, mais qualifiées. Voilà qui satisfait leur entraîneur, Antiomanli.
Nous avons joué un match très palpitant, face aussi à une grosse équipe qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'individualité physique et une bonne organisation du jeu. Il ne fallait pas aller au-delà des 15 points d'écart. Nous avons essayé, avec le peu de moyens qu'on avait, essayer de réduire nos scores. Mais bon, on a essayé de rectifier. Avec la jeunesse que nous avons aussi tombé beaucoup, beaucoup de talent. Et nous avons aussi pris beaucoup de modestes décisions sur le plan offensif, surtout le plan individuel.
Antiomanli avec Babacar Fall.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Nous garantirons les droits de tous et de toutes les confessions en Syrie. Déclaration hier du Premier ministre de Transition dans une interview au Corriere della Sera. Mohamed al-Bashir a également appelé les Syriens exilés à rentrer chez eux pour reconstruire le pays. La Syrie et de nouvelles frappes israéliennes hier sur des sites militaires, notamment dans les provinces côtières de Latakia et de Tartous. Plusieurs pays, dont la France, appellent l'État hébreu à se retirer de la zone tampon à la lisière de la partie du Golan annexée. Pour évoquer cette situation, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est en Jordanie. Il sera demain en Turquie. Emmanuel Macron, lui, sera en Pologne. Aujourd'hui, le président français qui s'est engagé à nommer ce soir un nouveau Premier ministre en France, une semaine après la démission du gouvernement Barnier, après la motion de censure votée par l'Assemblée. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, est notre invitée tout à l'heure. Rendez-vous à 7h20, heure de Paris. Et puis des milliers de personnes à nouveau rassemblées hier dans les rues de Tbilissi, en Géorgie, toujours pour contester le gel par les autorités du processus d'adhésion à l'Union européenne. Rassemblement à 3 jours de l'élection présidentielle. Scrutin au suffrage indirect dans le pays.
RFI Matin.
C'est l'une des questions qui se posent après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie et la prise du pouvoir par les rebelles menés par les islamistes du HTS. Quelles répercussions stratégiques cela va-t-il avoir pour la Russie? En effet, les deux bases russes en Syrie, le port de Tartous et la base aérienne de Meymim, sont très importantes pour les opérations que mène Moscou en Afrique, notamment pour faire transiter du matériel et des hommes. Alors que va-t-il advenir de ces bases? Quelles conséquences ensuite pour les alliés de la Russie sur le continent? Christophe Boisbouvier a interrogé à ce propos le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Général Jérôme Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
En quoi les bases russes de Syrie sont-elles importantes pour les stratèges russes qui opèrent en Afrique?
Alors, ces bases, il faut souligner qu'il y a donc à la fois des bases navales, donc en Méditerranée orientale, ce qui est extrêmement important pour Moscou, parce que Moscou, vous savez, ne dispose pas de cet accès aux mers chaudes. Il faut passer par donc le Bosphore, par la mer Noire. Et donc, les bases navales permettaient aux Russes de sillonner la Méditerranée, d'aller éventuellement en mer Rouge. Et donc, c'était un point stratégique majeur. Et Moscou dispose aussi de bases aériennes en Syrie, qui lui permettaient d'être à la fois un acteur important dans la région, mais également d'être sur la voie vers l'Afrique, en particulier vers le Sahel. Donc ces bases aériennes étaient très importantes dans la logistique russe et permettaient en fait aux Russes d'avoir ce point d'appui qui leur permettait de rayonner sur le proche Moyen-Orient et sur l'Afrique.
Est-ce que les gros porteurs russes, les Antonov, les Ilyushin, peuvent aller directement de Russie à Bangui ou à Bamako, ou est-ce qu'ils doivent faire une escale sur la route?
C'est loin pour les gros porteurs russes pour effectivement aller jusque Bamako ou à Niamey. Ces bases aériennes en Syrie permettaient en quelque sorte d'avoir une allonge supplémentaire vers l'Afrique, que ce soit par exemple le Soudan, que ce soit le Tchad, le Niger ou le Mali.
Alors ce que vous appelez une allonge, c'est la possibilité pour les avions gros porteurs russes de ravitailler sur leur base de Syrie, c'est ça ?
Oui, par exemple, c'était vraiment des plateformes extrêmement utiles qui permettaient de stocker du matériel, donc des plateformes, on va dire, multi-usages pour l'armée russe et qui permettaient aussi aux militaires russes, en quelque sorte, de s'entraîner sur des populations civiles qui étaient à leur merci.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Russes vont être en mesure de conserver leur base navale de Tartous et leur base aérienne de Remémim?
C'est une question qui est sur la table. Est-ce que les nouvelles autorités acceptent moyennant contrepartie. Au mieux, je pense qu'ils pourraient conserver la base navale, parce que sans cette base navale, ils ne peuvent plus être présents en Méditerranée orientale.
Alors évidemment, les stratèges russes réfléchissent à des bases de repli. À quelles bases peuvent-ils penser?
Très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de possibilités en dehors de la Libye, donc partie du maréchal Haftar, donc à l'est. Il y a bien sûr l'Algérie, mais est-ce que l'Algérie voudra avoir une présence permanente de la Russie? Donc on voit bien que l'échiquier stratégique russe dans cette partie du monde est en train de changer brutalement, sans pour autant que les Russes aient toutes les cartes en main.
On peut donc imaginer une base navale russe à Tobrouk et une base aérienne russe à Benghazi, chez le maréchal Haftar?
Éventuellement. La seule chose, c'est que le maréchal Haftar est quelqu'un qui joue aussi sur tous les tableaux. Certes, il bénéficie de l'appui des Russes, mais il a aussi besoin que les Occidentaux, je pense aux États-Unis, la France, voire l'Égypte, le laissent tranquille. Et donc, pour Moscou, le grand plan qui consiste à se rapprocher des mers chaudes est totalement remis en cause avec l'effondrement du régime de Bachar el-Assad.
Alors il y a les conséquences stratégiques de la chute du régime Assad, il y a aussi l'impact politique sur les alliés africains de la Russie. Quel peut être cet impact, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique?
Je pense que sur le plan psychologique, certains membres des juntes doivent se poser des questions quant au soutien russe, puisqu'on le voit bien dans le cadre de ce qui s'est passé en Syrie. La seule solution qu'a pu apporter Moscou, c'est l'exfiltration de la famille de Bachar el-Assad. Donc, on peut supposer que les juntes qui ont un ton très agressif contre l'Occident, et je pense notamment contre la France, vont peut-être mettre, excusez-moi l'expression, de l'eau dans leur vin, parce qu'on voit bien que Moscou n'est pas capable, en fait, fait de gérer plusieurs guerres simultanément. L'Ukraine accapare l'essentiel des capacités militaires de la Russie et donc il n'est pas dit que Moscou soit prêt à envoyer des centaines de mercenaires de ce qu'était Wagner pour soutenir ces juntes. Donc il risque d'y avoir une attitude plus prudente des juntes parce que le soutien de Moscou, visiblement, il n'est plus du tout inconditionnel. Donc on risque d'avoir beaucoup de nouvelles surprises en 2025 au Sahel avec peut-être des mouvements de rébellion qui vont profiter de l'occasion. Donc il faut rester très vigilant sur ce qui va se passer au Sahel donc dans les mois à venir.
Général Jérôme Pellistrandi, merci.
Entretien avec Christophe Boisbouvier, retrouvé sur notre site RFI.fr.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Votre chronique matière première ce matin, on parle du coton, un marché très concurrentiel. Et pour cette campagne de commercialisation 2024-2025, les quantités produites sont très, voire trop importantes. Ce qui veut dire que certains pays producteurs vont avoir du mal à se faire une place, notamment pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Marie-Pierre Olfan.
La demande n'est pas à la hauteur de la production cette année. Trop limitée ou trop aléatoire, elle n'est clairement pas suffisante aux yeux des négociants et des exportateurs de coton. Les filateurs ne se précipitent pas aux portes des pays producteurs, à part ceux du Pakistan qui cherchent du coton partout en raison d'une faible récolte. Les autres préfèrent attendre. C'est particulièrement vrai au Bangladesh, le deuxième acheteur mondial. Le pays est miné par l'inflation, les filatures hyper endettées, plusieurs usines ont été mises en vente officiellement parce qu'elles ne sont pas rentables et n'arrivent pas à rembourser leurs emprunts. Ces usines en difficulté ou à l'arrêt sont autant de clients qui n'achèteront plus ou achèteront moins de coton africain. Or, le Bangladesh absorbe 70% de l'or blanc du continent. Quand la demande faiblit, les prix sont tirés vers le bas ou du moins ne remontent pas. Pour le coton, cela se traduit par un marché qui fait le yo-yo autour de 70 cents la livre depuis plusieurs mois. Et c'est là le deuxième problème qui se pose au coton ouest-africain. Car sur le continent, les prix garantis aux planteurs ont été décidés très tôt dans la saison, quand les cours étaient beaucoup plus élevés. Ils se retrouvent aujourd'hui en décalage avec les cours internationaux qui ont baissé. Les sociétés cotonnières qui exportent peinent à trouver des clients qui proposent un prix supérieur au prix de revient de leur coton. Résultat, les appels d'offres infructueux se multiplient. Dans le contexte mondial actuel, sans grande surprise, le pays qui s'en sort le mieux pour l'instant n'est pas situé sur le continent. Non, il s'agit du Brésil. Son coton très compétitif continue de se vendre largement sur tous les marchés.
Marie-Pierre Olfand.
RFI Matin.
C'est une région que l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont disputées pendant 3 décennies. Mais depuis septembre 2023, le Haut-Karabakh a été entièrement récupéré par Bakou après une offensive militaire éclair. Vidé rapidement de ces dizaines de milliers d'Arméniens, le régime d'Ilham Aliyev mène désormais dans le Haut-Karabakh de grands travaux avec l'objectif de faire revenir au plus vite les 700 000 déplacés internes de la première guerre des années 90, alors que la majorité des terres sont encore recouvertes de ruines et de mines. C'est très rare, mais RFI a eu accès à la région. Face aux journalistes, la réinstallation des premières familles est soigneusement mise en scène. Au Karabakh, l'après-guerre entre reconstruction et propagande de l'Azerbaïdjan. C'est un grand reportage de Manon Chaplin.
Impossible durant toute notre visite de déroger au programme officiel. On voit pas grand-chose, on ne croise pas non plus beaucoup d'habitants. Les rues sont très calmes. Il y a des enfants qui jouent au foot sur une petite place. On vient de rentrer chez une famille qui nous attendait a priori pour manger. C'est un appartement tout neuf, très spacieux. Sur la table, il y a des gâteaux, des plats de viande, du thé. Toute la famille est là. Le père, la mère et leurs deux filles, 4 et 8 ans.
La vie ici, c'est génial. Tous les jours sont fantastiques. Je suis très excitée de voir ce qui nous attend ici dans le futur. Mes amis sont tous restés à Bakou. Au début, j'espérais qu'ils viennent ici, mais finalement, je m'en fiche. Pour rien au monde, je ne retournerai vivre à Bakou.
Il faut que vous compreniez, la guerre m'a arraché de Fuzuli lorsque j'avais 4 ans. Je suis tellement heureux d'être enfin de retour avec mes deux filles. Après la première guerre, moi et mes parents avions tout perdu, tout. Nous avons dû vivre durant des mois dans une tente, dans des stations de métro, en passant de ville en ville dans des conditions très difficiles. L'hiver, il faisait très froid. L'été, nous étouffions. Le gouvernement a fini par nous donner un petit logement dans une vieille école à bas coût. Mais cela n'a jamais été pareil. Les conditions de vie étaient spartiates, c'était très petit, très compliqué. Maintenant, regardez où nous sommes. Nous avons un appartement de 100 mètres carrés et des chambres pour chacune de mes filles.
Est-ce que vous vous rappelez comment c'était ici à Fuzuli avant la guerre ?
Avant la guerre, nous vivions ici en paix avec les Arméniens. Nous avions l'habitude de vivre comme des voisins, comme des amis. Nous n'avons jamais été opposés les uns aux autres. La guerre, ça n'a jamais été notre volonté, la volonté du peuple. C'était la volonté de certains groupes séparatistes arméniens.
Tous les Arméniens de la région sont désormais partis depuis un peu plus d'un an. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il sera possible à nouveau de coexister ici ?
Ah, écoutez, ça c'est une question trop politique. C'est vraiment difficile de répondre. Même moi, je ne le peux pas.
Ce grand reportage de Manon Chapelain est à écouter en intégralité aujourd'hui sur RFI à 12h10 et 20h40 heure de Paris. À retrouver aussi sur notre site RFI.fr, notre application et sur toutes les plateformes d'écoute.
RFI à Fort-Dauphin, 96 FM.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Avez-vous été convaincu par le discours sur l'état de la nation du président congolais Félix Tshisekedi, la situation socio-économique, la crise sécuritaire dans l'Est ou encore la nécessité de réformer la Constitution? Le chef de l'État a-t-il réussi son grand oral?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Entre ses cools et sa kiff, un demi-siècle s'est écoulé. Chaque décennie a ses mots, chaque mot a son acte de naissance. Dans les 60s, pas de SMS. Dans les années 2000, plus de Minitel. Mathieu Avanzi s'est amusé dans son nouveau livre à raconter le fabuleux destin des mots, de ceux qui apparaissent, disparaissent ou résistent.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.